Salut tout le monde, bienvenue au Trio économique avec la voix nasarde de Vincent Gelozo cette semaine. Comme qui parle 75% du temps, on s'excuse. Vincent, c'est de quoi tu voulais nous parler là, les dernières semaines là, de Monopole? Hein, c'est ça? Je te laisse-tu décoller tout de suite? Ben non, je passe d'autres niaiseries.
T'es vraiment le roi des trolls, hein? On vient de faire une planif avant, mais Yann il est là. Non, on va aller hors sujet. Ben écoute, veux-tu vraiment qu'on parle de Monopole?
Pas tant.
Ben, on en avait déjà parlé, fait qu'on peut... mais quoi que c'est des sujets qui reviennent un peu tout le temps, là, mais bref... c'est parce qu'on s'est dit avant de commencer, on a essayé trois podcasts de suite de décoller là-dessus. Puis les trois fois. C'est ça, les trois fois, on a complètement dérapé. Fait qu'on est. C'est peut-être un signe là, que je crois pas.
C'est peut-être parce que Yann est payé par des multinationales pour.
Non, c'est le KGB, moi. C'est, les multinationales, oui, c'est Frank.
J'avais oublié.
Ouais, moi j'ai. Moi, j'ai assez hâte de recevoir mon chèque.
Moi, j'ai oublié c'est qui me paye.
Ben toi, c'est pas... voyons,
toi, Monsanto, même, non, c'est juste pour flatter ton ego qu'on fait ça. Là.
Ah oui, effectivement.
Non, mais quand...
Toi, tu gagnes rien de tout ça. Hein? Toi, tu fais ça juste pour le fun. Toi, c'est ta BA de la journée de faire ça, ce podcast-là.
Mais quand tu parlais de gestion de l'offre, Vincent, je suis sûr que t'as reçu des trucs du genre t'as été payé par Monsanto ou... C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui
t'a dit ça. J'ai été payé par les transformateurs ou okay. par des firmes américaines. C'est généralement ça.
OK.
C'est évident.
Ah oui, des Italiens. Là. Écoute, on se connaît tous à Saint-Léonard.
Mais ça, c'est pas de la théorie du complot, ça. Hein? C'est ça.
Okay. Ah non, c'est les complots corrects.
OK, ouais. Ouais, c'est ça que j'ai compris, moi. C'est... Mais Yann, avec le KGB, celle-là, faut quand même avouer qu'elle...
Celle-là, cette semaine, avec l'affaire du KGB, je t'admettrais que j'ai trouvé un peu drôle. Là.
faut l'avouer qu'il y a des gens qui ont... Moi, j'admire ça quelque part, parce que je me dis qu'il faut avoir une bonne imagination, pareil. Là, une bonne imagination pour faire un truc de même, parce que tu te dis, bon, le KGB, OK. Il me semble que j'aurais au moins pris un organe qui existe encore, mais bon, c'est...
Quoi? Le pire dans tout ça, c'est que tu regardes les milliers de vues qu'on a sur YouTube, les milliers de vues qu'on a sur Facebook, c'est connu à peu près c'est quoi les CPM de ces plateformes-là. Tu regardes le Patreon où est-ce que c'est très, très transparent la quantité d'argent qu'on reçoit chaque mois. Tu regardes après ça les gens qui droppent du cash dans les lives qu'on fait. Tu dis, pensez-vous que j'ai besoin du KGB pour rentabiliser cette patente-là? Là? Si quelqu'un qui sait compter, il se rend compte que ça fonctionne pour vrai tout seul. C'est un peu curieux, là, mais mettons que tu es intéressant, pertinent, puis tu as un contenu un peu plus niché qui n'est pas disponible partout ailleurs. Donc, tu sais, mettons que tu aurais une opinion un peu différente de ce que tout le monde dit. Tu sais, on a eu un gros débat là, sur l'avortement là, cette semaine, puis l'opinion facile, c'était « mon corps, mon choix ». Puis les batailles des femmes, il faut... Si tu as cette opinion-là, tu prends aucun risque, tout le monde l'a, il n'y a aucun problème avec ça. Si tu t'en vas dans les nuances du débat, puis un débat qui peut être fascinant si tu as le goût de le jouer, ben, tu es vraiment dans une situation où est-ce que tu dis « crème, il y a vraiment de quoi de bien à faire avec ça, puis tu peux intéresser des gens. » Mais si tu es dans la facilité puis l'opinion sans risque, ça se peut que tu sois juste confondu dans la masse aussi, là.
Ben, quand tu n'as pas le contrôle sur comment les termes du débat sont posés, tu es obligé de te positionner avec comment le débat a été posé. Puis là, c'est là que vient le piège parce que, bon, la réalité, c'est que tout le monde est tout le temps un peu à mi-chemin entre deux options, entre deux positions. Puis dans un certain contexte, ils vont dire « OK, là, pour ça, je pense que... Pour ça, je suis d'accord. Pour telle autre affaire, je ne suis pas d'accord. » Mais les termes sont ainsi posés que... Il y a le camp du bien, il y a le camp du mal, et voici comment je dois me positionner pour signaler ma vertu.
En fait, c'est là.
C'est l'avortement, mais j'aurais pu prendre n'importe quel autre sujet aussi. Là. Ça peut être les tirages de statues à terre, puis ce genre de trucs-là.
C'est là que tu peux faire la différence entre c'est quoi un intellectuel et un militant. Un militant va jouer dans la dichotomie binaire, un peu, si on veut, là, du débat. Tandis que l'intellectuel va amener une réflexion des arguments, une ouverture d'esprit aussi dans tout ça. Tu sais, moi, je veux dire, ce débat-là, pourquoi je l'ai trouvé fascinant, le bout que nous, on a fait sur Patreon, c'est parce que, justement, j'ai appris des affaires, on a sorti une carte vraiment de toutes les législations qui existaient sur la planète. Et là, tu dis, c'est loin d'être noir et blanc, ce débat-là, quand tu le regardes comme il faut. Mais les militants politiques, puis il faut inclure les médias là-dedans, parce que c'est rendu des militants politiques eux aussi, ben, ils veulent que ce soit blanc ou noir, les bons, les méchants, puis fermez vos gueules. C'est ça qu'on fait. Fait que,
moi, j'ai, en fait, tant qu'à hijacker ce qu'on allait parler, je comprends pas.
J'ai pas fait exprès. Non, mais
c'est toujours toi, ça. Non, j'ai pas fait exprès. C'est ta nature. Tu n'es pas fait exprès. C'est un peu. Arrête, là, c'est ta nature. Mais. Je comprends pas comment les gens peuvent avoir des opinions tranchées sur cette question-là.
Moi aussi.
C'est sérieusement une question vraiment difficile. Je
ben,
sais
t'as
que...
peu, Vincent, excuse de te couper. Ouais. Pas les gens. Les gens qui parlent.
Ouais,
parce que si tu fais le tour autour de tes amis, tes connaissances, ta mère, ton père, là, tu lui dis, mettons, OK, mais après tant de semaines, ou si, mettons, l'enfant, il a telle affaire. Puis c'est tout le monde a une position quand même vraiment nuancée s'il prend le temps d'y réfléchir. Il n'y a personne là, qui est d'accord que deux jours avant la date de l'accouchement, tu avortes un enfant. Tu comprends? Là, il y a personne.
Ouais,
tout,
ben,
tout le monde va dire.
Un super
ben
bon
oui,
exemple
ça
de ça.
Limites,
aux États-Unis, là, il y a un sondage. Le sondage Gallup demande une question. Est-ce que vous préférez l'étiquette pro-vie ou pro-choix? Et il y a une autre question qui est posée par le Pew Research Center qui est est-ce que l'avortement devrait être dans toujours ou généralement légal versus est-ce que l'avortement devrait être généralement ou toujours illégal. Right? Là, ce que tu vois, c'est que dans la première question, celle de Gallup, c'est une étiquette que tu adoptes 0 ou 1. Right?
Oui.
Tu es soit...
dans un camp ou dans l'autre.
Dans l'autre, tu poses la question avec est-ce que ça devrait être toujours illégal ou généralement légal? Quand la deuxième question, tu vois que les gens, c'est 60-40 pour le généralement ou toujours légal. Mais quand tu demandes la question pro-vie, pro-choix, c'est 50-50.
OK.
Ce qui devrait te montrer que les gens ont l'espèce de conçoivent que la question est vraiment difficile. Et pour le fun, là, pendant que tu faisais déraper la conversation, parce que c'est ça que tu fais de
écoute, je vais le ramener où est-ce qu'on veut que ça aille. On va le dire à tout le monde que tu as eu
un gros
avoir
lu
prix
sur
pour un texte
l'économique des avortements. Puis il y en avait un, c'était sur les déterminants des lois dans des États, donc de lois qui restreignent l'avortement ou qui créent des, par exemple, les heartbeat laws ou des choses comme ça qui faisaient que tu avais certaines restrictions sur comment fournir les services d'avortement au niveau des États. Et ce qui était trouvé, c'est pour ça que l'article date un peu maintenant, celui-là, mais il montrait qu'il n'y avait aucun effet de ces lois-là au niveau des États. Largement parce que la plupart de l'effet était concentré sur, voyons, que la plupart des lois qu'il y avait, comme elles s'attaquaient au very late term, donc des choses vraiment plus tard, puis qui mettaient plus de restrictions sur des choses qui étaient plus tard dans la grossesse, ça n'avait pas vraiment d'effet parce que ces cas-là étaient très rares, étaient très minimes. Alors que ceux qui sont généralement permis, puis ceux que les gens sont généralement d'accord avec, c'était ceux du premier trimestre dans lequel, là, il n'y a vraiment personne qui s'attaque à ça, même les militants pro-vie. Ah ouais.
Ben, l'exemple classique de modéré, ça, c'est un peu ce que je disais dans le bout qu'on a fait juste pour le monde du Patreon. Ce que je disais, c'est la plupart des trucs dont il est question aux États-Unis dans les réformes là-dessus, c'est tout concernant ce qui se passe après 17 semaines. Puis là, ben, t'avais des gens en France qui étaient comme regardez ces Américains là, sur l'avortement. Puis là, j'étais comme c'est parce que vous, après 15 semaines, c'est illégal. Fait qu'est-ce que vous racontez? Tu comprends? Aussitôt que tu changes de cadre législatif, les questions ne sont pas posées de la même manière, les délais ne sont pas les mêmes, la réglementation n'est pas la même, l'encadrement n'est pas le même. Tu sais, fait qu'on est tous l'anti ou le pro de quelqu'un par rapport à la position initiale. De où ces gens-là partent. Bon, c'est sûr qu'au Canada, je pense que c'est une des places les plus libérales au monde par rapport à cette question-là. Fait que nous, c'est facile d'être le pour de tout le monde, mais t'sais, la réalité, c'est que la majorité des États américains sont plus libérales sur cette question-là que la France, que l'Allemagne, que l'Angleterre, que plein d'autres endroits. Là. Donc, je ne comprends pas c'est quoi ce procès d'intention-là qu'on fait spécifiquement aux États-Unis, alors qu'on n'entend jamais dire « Ah, en Angleterre, ils sont un petit peu retard sur cette question-là. En France, ouais, c'est... Puis en Allemagne, on n'entend jamais, on entend parler de ça. C'est toujours... Moi, en fait, je soupçonne que derrière ce truc-là, ça nous ramène encore à l'histoire de l'anti-américanisme, que c'est un bon prétexte pour aller taper là-dessus, parce que si on était vraiment cohérent, puis si c'était vraiment une question qui nous tient à cœur, on parlerait d'autres places que des États-Unis. Tu sais, allez voir c'est quoi les règles d'avortement au Mexique.
C'est un mot du bon point que tu fais. Je trouve que ça fait bien du sens, parce que c'est vrai que quand on discute des questions d'avortement, c'est toujours les Américains qui sortent en tête dans les conversations... Au Québec, j'ai rarement entendu des mentions de la Grande-Bretagne ou de l'Irlande ou de la France. Mais en même temps, c'est encore une fois, mais aussi ce qui me tape un peu sur les nerfs, c'est vraiment le discours qui est vraiment catégorique dans ce sujet-là. Surtout juste les étiquettes, soit dit en passant, me tape vraiment sur les nerfs. Pro-vie, comment tu peux être contre la vie, puis pro-choix, comment tu peux être contre le choix? C'est comme les deux groupes choisissent leurs étiquettes pour prétendre que si t'es pas de leur bord, t'es fondamentalement une personne méchante.
Et possible d'être pro-vie et pro-choix en même temps.
Merci, c'est ce que j'allais dire. Les deux étiquettes supposent que les deux sont mutuellement exclusifs, ce qui n'est pas le cas. Tu peux très bien être contre quelque chose personnellement et ne pas vouloir empêcher les autres d'avoir accès à cette chose-là. Moi, je peux dire... C'est la même chose avec l'aide médicale à mourir. Moi, je peux dire, moi, personnellement, je ne me verrais pas demander ça. Ou si ma conjointe demandait ça, je ne me sentirais pas à l'aise, mais ne pas du tout vouloir que ça soit illégal pour les autres.
Exact.
C'est espèce d'étiquette-là, ces fausses oppositions-là, en fait, on sait à quoi ça sert. Ça sert à se jeter de la bouette entre tribus. C'est clairement à ça que ça sert.
Et c'est ce qui rend le débat médiatique complètement imbuvable.
Oui, puis il y a plein d'affaires aussi qui ne vont jamais mener en considération. Il y a un article vraiment connu dans Journal of Political Economy 2005, je l'ai retrouvé, « The Impact of an Abortion Ban on Socioeconomic Outcome of Children, Evidence from Romania ».
Il y a beaucoup de chercheurs économiques qui se penchent sur ces questions-là, très sociales. Oui.
Il y a une grosse littérature là-dessus. Il y avait un gros débat au début des années 2000 sur est-ce que Roe v. Wade aux États-Unis avait eu l'effet de mettre un terme à la vague de crimes des années 60, 70, 80 en faisant en sorte que des enfants non voulus, négligés ne sont pas venus au monde, donc des futurs criminels ne sont pas venus au monde. Il y avait cette thèse-là. Ça a été un peu... Quand le premier article est sorti, ça a été vraiment contesté. Je te dirais que
ça... Il doit avoir beaucoup d'hypothèses, veux pas, dans une
En fait, ce qui s'est passé, c'est que le gars... Non, il n'y avait pas tant d'hypothèses que ça. Le gars avait utilisé une méthode assez standard en économie, puis il avait l'air d'arriver à un gros effet, puis ça expliquait vraiment la part du lion. Maintenant, on est d'accord pour dire que c'est pas la part du lion, mais c'était pas zéro. Donc, il y a eu un effet. Mais l'exemple qu'il y a, c'est qu'en plus, ce qui complexifie toute la chose, c'est que, j'ai l'article que je mentionnais dans Journal of Political Economy, puis je vais l'envoyer à Frank dans le chat pour qu'il le partage avec les auditeurs. Ce qui montre, c'est que quand il y a un ban qui a été passé sur une interdiction, en fait, d'avortement en Roumanie, un des effets qu'il y a eu, c'était que les enfants qui sont nés après l'interdiction avait des résultats éducationnels inférieurs, toutes choses étant égales par ailleurs. Donc, ça a eu un effet sur des enfants qui n'étaient pas vraiment en moyenne. Puis on peut comprendre pourquoi, parce que y a des enfants à cause que le timing des familles est amené un peu en désordre, qu'il y a un événement inattendu, que tu n'es pas préparé financièrement à avoir un enfant, le résultat est dans une situation comme ça, que tu n'es pas capable de t'ajuster efficacement et donc que tu n'es pas capable d'investir aussi bien. Donc, il y a comme une troisième vague d'effets quand tu interdis l'avortement qui peut être que tu vas affecter des enfants qui sont peut-être même des enfants qui sont désirés, pas juste ceux qui sont des accidents ou qui sont le résultat de situations problématiques, c'est que tu pourras avoir des effets sur un troisième groupe. Fait que ajoute tout ça, puis je comprends pas comment quelqu'un peut avoir un opinion.
Le bout du troisième groupe, c'est-tu, par exemple, tu es dans une classe avec des enfants qui étaient pas désirés, donc ils ont plus de difficultés, qui tirent le groupe un peu par en bas?
Ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi le fait que les parents n'ont pas un bon coussin financier. Donc, disons, le premier enfant qui est arrivé était inattendu et ils doivent le garder. Le deuxième était attendu, mais ils n'avaient pas les ressources, ils n'étaient pas financièrement prêts. Ou ça peut être que le deuxième était non désiré. Dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que ben, tu ne peux pas dépenser autant sur l'éducation.
L'exemple que tu viens de dire, je comprends ce que tu veux dire parce que une des façons, tu sais, il y a des gens qui n'ont rien à faire en finances personnelles avec eux autres, c'est toujours des catastrophes, puis ils sont voués à faire faillite tout le temps, là. Mais il y a des gens qui vont naturellement bien se gérer. C'est l'affaire, c'est ce qu'on se rend compte, c'est qu'un bilan financier qui est sain, il va avoir de l'endettement, veut pas début vingtaine parce que tu sors de l'école, le revenu de travail est très faible à ce moment-là, on commence dans la vie si on veut. C'est pas nécessairement le meilleur temps pour s'acheter une maison. Donc, t'es vraiment en processus de rattrapage salarial, puis en plus, tu dois rembourser tes dettes quand même assez vite pour aller chercher de l'oxygène, pour éventuellement réussir à avoir un cash down, avoir une maison, puis vient la maison. Bon, si tu veux acheter du temps, tu peux acheter un chien, mais assez rapidement après, peut venir des enfants. Sauf que si les enfants arrivent avant tout ça, alors t'as pas encore la maison, t'es encore dans tes dettes d'études, ben tu peux accumuler un certain retard important, pareil, côté planification financière puis budgétaire. Ce qui fait que tu peux être encore à 32, 34, 35 ans, encore avec des dettes qui viennent, en fait, de cette période-là quand tu étais début vingtaine, où est-ce que tu aurais peut-être préféré avoir un enfant un peu plus tard, autrement dit.
Ouais. Écoute, combine tout ça ensemble, l'effet positif de pouvoir... Parce qu'il y en a des effets positifs... la réduction de crimes que j'ai mentionné, que ce soit grosse ou petite, il y a un effet positif, que ce soit après ça sur le fait que tu peux mieux investir dans les enfants qui sont désirés. Ça a des effets. Mais il y a aussi après ça toute la grosse contrepartie que ben c'est quand même une créature qui vit à partir d'un certain point. Elle n'est pas partie à la décision de terminer sa vie ou non. Peut-être qu'elle, elle aurait voulu vivre. Je veux dire, c'est dur d'arriver avec une position là-dedans puis de dire « Ah, je sais la bonne position. » C'est pour ça que quand Roy Eapen, que les médias ont voulu taper dessus au Québec, sa position, j'ai trouvé que c'était vraiment malhonnête comment les médias ont représenté
c'est
ça.
C'est dégueulasse.
Parce que ce qu'il a dit, c'était que lui, moralement, il était... Parce que, un, je connais Roy, puis je sais c'est quoi sa position. Peut-être qu'il l'a mal dit dans la conférence de presse.
Non, il l'a bien dit. Il l'a très bien dit.
Je me souviens, là, je l'ai écouté parce que ça y a eu un petit scandale. Après, j'ai écouté la clip, puis j'ai dit peut-être qu'eux, ils n'ont pas compris, mais il avait l'air d'avoir dit clairement que lui, moralement, il était contre. Mais que ça ne voulait pas dire qu'il pensait qu'il fallait qu'il y ait d'effets législatifs. Ce qui, je pense, est la seule position qui... Puis en fait, c'est probablement la position que j'ai toujours sur toutes les questions morales. Quand il y a une zone de gris très large, c'est mieux que tu laisses la société civile réguler ce mécanisme-là. Le plus possible décentralisé, que si tu le donnes dans les mains des familles, des organisations communautaires, dans...
En fait, parce que l'argumentaire qu'on a eu, le point que j'amenais, c'était, tu sais, Roe versus Wade, grosso modo, si on simplifie énormément, c'était est-ce que ça devrait être légiféré au niveau fédéral? Puis là, on s'en irait dire non. Tu sais, on n'est pas en train d'empêcher le droit à l'avortement. Là. C'est pas ça qui se passe. C'est
qu'on en fait, ce que j'ai compris de Roe v. Wade, il y a une autre affaire qui complexifie les affaires encore plus aux États-Unis. C'est que la manière dont ça a été interprété, le jugement a été produit, c'était que l'idée, c'est qu'il y avait un droit. There's a right to privacy. Et ce que beaucoup de juristes disent, c'est que c'est pas dans la Constitution en soi. Fait que là, les conservateurs qui sont pro-vie s'attaquent à cet aspect légal-là, que c'est un droit qui a été créé comme ça. Mais l'autre réplique, c'est aussi, c'est que peut-être qu'il y a deux solutions. C'est soit tu laisses ça aux États. Puis je ne suis pas très fan, by the way, de laisser ça aux États. Je pense qu'il y a certaines zones de droit qui devraient être nationales. Oui, tu sais, comme certaines clauses devraient l'être. Puis je pense que l'avortement, ça serait ça. Mais là, après, ce qui se passe, c'est que tu as aucun politicien dans le Congrès qui veut mettre ses culottes puis dire, ben définissons ce droit-là, soit constitutionnellement, ou faisons-en une pièce de législation. Il n'y a personne qui veut faire cette extension-là. Puis les politiciens américains étaient très contents que ce soit, après ça, tout le blâme tombe sur la Cour suprême puis que ça devienne un débat de juristes. Comme ça, eux peuvent éviter
d'avoir à se commettre. Mais est-ce que ça se peut qu'il y ait des gens là-dedans qui ont intérêt à ce que cette question-là ne se règle pas?
Ben oui, regarde. Les,
je pense que oui.
Qu'est-ce qui est arrivé au PQ la journée qu'il n'y a plus de référendum? Ils sont morts. Qu'est-ce qui est arrivé aux libéraux la journée qu'il n'y a plus de référendum? Ils sont morts. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de politiciens que si on règle définitivement la question de l'avortement aux États-Unis, à la manière canadienne, par exemple. T'sais, au Canada, c'est un débat qui semble être réellement clos. Ça serait très surprenant d'aller jouer là-dedans au Canada. Ben, admettons qu'on fait la même chose aux États-Unis. Je veux dire, c'est un des jouets politiques que les démocrates et les républicains ont exploité depuis très longtemps.
Qui très efficacement. Perdre.
Exactement. C'est un jouet politique qui n'existe plus demain matin. La souveraineté du Québec est un jouet politique qui a été retiré aux politiciens au fil du temps par la population. Puis regarde, il y a deux partis qui vont mourir à cause de ça.
Ben, il y a peut-être un des trucs qui pourrait être positif aux États-Unis avec ce qui se passe, c'est que même si techniquement, je ne suis pas super content du... Comme je l'ai dit, en fait, je maintiens le fait que moralement, je suis pro-vie, mais légalement, je suis pro-choix dans le sens que je veux pas que l'État légifère à définir c'est quoi la vie. Surtout que si je lui donne cette prérogative-là, il peut se l'attribuer pour autre chose après. Comme ça pourrait être, par exemple, le fait juste que l'État ait le droit... Tu sais, les gens ont célébré Véronique Yvon pour...
mourir dans la dignité.
Dignité. Je comprends même pas pourquoi c'était pas déjà le cas que tu as le droit de choisir comment tu t'en vas. Le fait est que
ouais, puis là, ça c'est une chose, mais quand tu es dans un réseau de santé publique, puis que là, tu mets les bases là-dessus, mourir dans la dignité, parfait, tout est beau, mais la journée que tu comprends les coûts de santé, puis tu te rends compte qu'une personne de 91 ans, par exemple, qui est très malade, va générer des tonnes et des tonnes de coûts pour le système de santé qui craque de partout, qui est financé de manière publique, tout ça, qu'est-ce qui nous dit que dans 20 ans, ce ne sera pas l'État qui va décider de mettre fin à une vie. On n'est pas rendu là, inquiétez-vous pas.
Non, je ne pense pas que la pente glissante est si glissante que ça.
Non, mais je veux dire, ça reste, mon point étant plus que...
mais tu ne devrais jamais quand même... Je pense que... on ne devrait jamais donner à l'État... Oui, c'est ça. Il ne faut jamais que tu donnes à l'État ce droit-là.
Exactement.
De dire que on va dire que dorénavant, des questions complexes comme celle-là vont être mises dans les mains de législateurs au lieu que dans les mains des familles, des individus, de la communauté en général. C'est pas que je suis en train de dire qu'il y a une solution idéale, mais celle qui donne la chance au plus d'harmonie et le moins de conflits sociaux autour de la chose, c'est de laisser dans les mains des gens qui peuvent faire la négociation au niveau local, que ce soit... en disant, ben écoute, dans notre cas particulier, qui est très, très unique à cause de X et Y caractéristiques, c'est peut-être mieux que ça soit que tu nous laisses faire l'avortement dans ce cas-ci. Puis là, la communauté, là, ouais, mais en général, on est contre, mais dans ce cas-ci, on comprend. Il n'y a pas de stigmate pour la personne qui le fait. Par contre, on peut mettre une stigmate sur la personne qui le fait comme un moyen de contraception. Puis là, la communauté essaie de gérer. Ça ne veut pas dire que tu devrais vouloir, que tu devrais aimer la situation, mais c'est beaucoup mieux que si tu donnes à l'État la capacité tu lui donnes le droit de pouvoir, ouais, de décider les paramètres de cette conversation-là. Dès qu'il y a une zone morale grise, je pense que la position libérale générale, dès qu'il y a une zone morale qui est grise, qu'il y a des droits qui sont en conflit et que l'État ne peut pas être clairement l'acteur qui crée une délinéation des choses de manière très claire, très précise, tu devrais laisser ça tu devrais le laisser légal, même si tu ne trouves pas ça.
En français, ce que tu viens de dire, c'est que tu enlèves ça des mains de l'exécutif pour te donner ça dans les mains du judiciaire.
Ouais.
Tu sais,
dans mon cas, moi, ça dépend. Ça serait du cas par cas, puis tu laisses les communautés gérer. Ça peut... Même pas ça, je dirais le judiciaire.
En fait, moi, je pense.
C'est vraiment, que tu enlèves l'État. C'est pour ça que je dis que pratiquement, c'est position pro-choix. Même si je trouve ça, j'aime pas J'aime pas l'avortement, je trouve que c'est une chose atroce.
Moi, personnellement, tu sais, je l'ai dit un peu cette semaine sur Patreon, c'était beaucoup plus une position de dire... Je pense qu'il faut qu'on ramène, comme dans tout, là, le moins possible de décisions fédérales, le plus possible de décisions près de l'individu. Puis l'individu, je trouve, le mieux placé pour prendre une décision éclairée, dans ma tête, c'est le professionnel de la santé. C'est la raison pourquoi, admettons qu'on crée un nouveau pays, parce qu'oubliez ça, c'est ce genre de débat que tu peux même plus avoir au Canada, puis c'est même pas intéressant de l'avoir. Mais on crée un nouveau pays demain matin, puis on établit les lois, puis par rapport à l'avortement. Moi, personnellement, c'est quelque chose que l'État ne devrait même pas toucher. Je pense que c'est les professionnels de la santé qui doivent déterminer de leur côté s'ils sont prêts à le faire ou pas, avec n'importe quel paramètre de leur côté. Il y en a qui vont être un peu plus tardifs, il y en a qui vont être un peu moins tardifs, selon son niveau de confort personnel à le faire. Il y en a qui ne voudront pas en faire du tout. Il y en a qui vont être ouverts à en faire sans problème.
Yep. Ça, je pense que c'est beaucoup mieux. Mais tu vois la position. Pratiquement, ce que ça veut dire, c'est
impossible
que t'es pro-choix.
À faire. Exact.
Pratiquement, ce que tu es en train de dire, c'est de prendre une position pro-choix, même si tu ne t'es pas prononcé moralement. C'est ça qui est vraiment gossant dans le débat, c'est que les gens nous demandent de simultanément se prononcer sur la moralité, sur la légalité. Puis, je m'excuse, mais n'importe qui est assez con pour confondre moralité et légalité, c'est vraiment... La seule personne qui peut faire ça, je m'excuse de dire le mot con, là, parce que c'est vraiment pas généreux, mais il faut vraiment que tu aies grandi dans un modèle étatiste à 100% de mur à mur que tu penses que si c'est parce que l'État a décidé, c'est parce que l'État a décidé de manière morale. Je m'excuse, mais il y a aucune corrélation forte entre ce qui est légal, ce qui est mandataire et ce qui est moral. Il y a aucun... Zéro lien entre ces choses-là. Il n'y a pas de cause à effet. J'ai le droit de penser qu'une chose est immorale et de dire que l'État ne devrait pas se prononcer dans ce sujet-là, de laisser faire.
Ben oui,
même si je n'aime pas cette chose-là.
Tu sais, l'affaire là-dedans, tellement l'affaire, là, c'est première des choses, il y a toujours un glissement qui est fait entre une position personnelle et une généralisation à tous. Ça revient à ce que je disais il n'y a pas longtemps, justement quand on avait parlé de l'affaire avec Roy Epen, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui présupposent que la liberté de conscience qui m'est conférée, qui me donne le droit de me... qui me donne la liberté de me prononcer sur X, Y chose dans ma tête, vient automatiquement avec le principe que cette liberté-là, ben, cette idée-là que j'ai, je vais vouloir l'imposer à tout le monde. Or, c'est pas vrai. C'est comme si je te disais, c'est comme si je vous demandais, les gars, est-ce que vous pensez que se droguer, c'est une bonne chose? Là, vous allez me dire, ben non, je pense pas. Ah, OK, donc, vous autres, vous pensez que les gens qui se droguent, on devrait les mettre en prison? T'es comme,
non,
pas dit ça.
Non, ben, non, en fait, ben, okay, c'est, ben, bon, c'est un bon exemple, ça. Les trois ici, je suis pas mal sûr que si on dit, est-ce qu'on devrait légaliser l'utilisation de la cocaïne? Moi, je dis oui, sans
hésitation. L'utilisation pure et simple, moi, je pense pas qu'on devrait mettre quelqu'un en prison pour ça. En fait,
c'est décriminaliser.
Bon, fait que les trois partagent la position de la légalisation.
Laisse-moi mettre la nuance. Oui. J'ai toujours vu l'utilité suivante. Même dans le temps du pot, là, c'était un peu la même chose. Avoir le pot criminalisé, j'ai toujours pensé que ça servait à une chose. T'es un policier, t'as pogné un petit crise de bombe, il a fait de quoi de grave, t'es pas capable de l'accuser de cette chose-là avec des preuves correctes, mais tu as trouvé du pot sur lui. Ben, tu dis, mon petit sacrement, c'est avec ça qu'on va te pincer. Moi, je vois la même chose un peu avec la cocaïne. J'ai l'impression que c'est plus à ça que ça sert. Plutôt que de dire, on débarque dans une place, OK, toi, tu avais une paille dans le nez, OK, tu t'en vas un an en prison. Je pense pas que ça marche comme ça pour vrai.
Ouais.
Je pense que la criminalisation des drogues a été utilisée beaucoup pour enfermer des gens qu'on n'était pas capable de prouver le crime qui nous intéressait pour vrai.
Mais tu sais, mon point en arrière de ça,
je suis prêt à croire ça, mais en même temps, vas-y, Frank.
Non, mais j'allais dire, mon point en arrière de ça, c'est pas de comparer les deux choses ensemble. Tout le monde aura compris, je le précise quand même, parce qu'il y a du monde qui va dire, il a comparé prendre de la drogue avec un avortement. Non, c'est pas ça le point. Le point, c'est pourquoi est-ce qu'on fait glisser tout le temps dans la conversation des idées personnelles ou des prises de position personnelles avec la généralisation de ça à tout le monde de manière en plus délirante, là. Tu sais, je peux très bien ne pas vouloir me droguer et avoir aucun problème à ce que des gens le fassent, un. De deux, ne pas vouloir que ce soit criminellement, qu'on puisse t'amener devant une cour de justice avec ça. Au même titre que je peux dire, ben écoute, moi, ça ne me rend pas super à l'aise. Si ça me concernait personnellement, j'aimerais pas ça, mais je comprends qu'il y a des gens que c'est leur dernier recours et j'ai aucun problème à ce qu'ils le fassent parce que c'est leur choix, c'est leur vie, c'est leurs affaires. C'est, il me semble que ces positions-là sont conciliables ensemble. Je comprends pas pourquoi. Ben, je le comprends parce que c'est politique, là, mais en termes d'honnêteté intellectuelle, je trouve que ça fait aucun sens de faire ça. Puis l'autre point, c'est ce que je disais avant, c'est la liberté de conscience. Il n'y a rien de plus fondamental, me semble, dans une démocratie là, à base. Là. Tu peux brimer les droits et libertés de tout le monde. Tu peux les empêcher d'aller dans un lieu plutôt qu'un autre. Tu peux les mettre en prison. Mais même la personne qui est en prison, là, à qui t'as retiré sa liberté puis que tu le mets pendant 25 ans en prison, tu ne pourras jamais y enlever une chose, sa liberté de conscience. Dans sa tête, il a le droit de te mépriser. Il a le droit de croire X, Y chose. C'est ça. La liberté la plus fondamentale, c'est la liberté de conscience. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est ben, les gens qui croient telle affaire, qui pensent telle autre affaire.
Ils ont le droit de se présenter aux élections.
Ben oui, ils devraient être exclus des élections. Ils ne devraient plus avoir le droit d'être vus en public pratiquement. Hey, attendez, là. C'est quoi cette affaire-là? Vous vous attaquez à ce qu'il y a de plus fondamental dans la société libérale, c'est la liberté de conscience. Il n'y a rien de plus fondamental que ça. Si on commence à jouer dans la tête des gens en disant, ben écoutez, les gens qui pensent que telle affaire, si on a la preuve de ça, ben on va leur faire perdre leur emploi, on va les... Hey, attendez, là. Vous en allez où avec ça, là?
Tu me donnes envie de voir deux affaires. La première, c'est que je veux voir c'est quoi la différence entre le Québec et le reste du Canada sur la question de l'avortement. T'as, regarde, en général, environ la moitié des Québécois ne veulent aucune restriction à l'avortement contre 35 à 40 % des Canadiens dans les autres provinces. Donc, attends. 37 % des Québécois et 37 % des Canadiens pensent qu'un organisme pro-vie devrait pouvoir avoir des subventions pour engager des étudiants à distribuer des pamphlets. Donc, le Québec a l'air d'avoir quand même, mettons, là, à regarder les proportions, 40 % de gens qui sont de ce qu'on pourrait appeler l'étiquette pro-vie. Donc, ce n'est pas une minorité négligeable.
OK, donc ces gens-là, ils sont 40 % de la population et qui aient une seule personne sur 125 candidats ou 338 circonscriptions qui est une seule personne qui représenterait 40 % des gens, c'est inacceptable, ça?
Oui, ça a de l'air.
C'est ça qu'il faut comprendre.
Mais c'est vraiment, je pense que c'est rendu dans un... Parce que là, l'exemple, premièrement, revenons un peu à l'exemple des drogues. Là. Le point qu'on faisait en utilisant le cas des drogues, les trois, c'était ici que tu n'as pas besoin de faire une équivalence entre... ce que tu juges être la bonne chose et ce que tu juges devrait être légal ou pas. Après ça, tu peux étendre cette analogie-là à la question ici de l'avortement et dire que tu ne sais pas ce qui est moral aussi. Donc, je te dirais que j'aime pas l'avortement, comme je disais, mais en même temps, l'article, tu sais, que j'ai partagé, je suis conscient que permettre l'avortement a des effets moraux dans le sens que ça a l'air de réduire la violence contre d'autres personnes, ça a l'air d'améliorer les résultats socio-économiques pour d'autres enfants qui sont ceux qui sont désirés. Et on ne peut pas négliger cette affaire-là. Donc là, ici, tu as comme un calcul moral qui est vraiment pénible et difficile à faire. Et là, comment tu peux arriver avec une position aussi claire que ce qu'on nous demande, et aussi, non seulement une position aussi claire, et en même temps dire, ben, tous ceux qui ne sont pas dans les trois boîtes de « il faut que ça soit, que tu penses que c'est moral de le faire, qu'il n'y a que des bénéfices, qu'il n'y a pas de coût et qu'il n'y a pas de trade-off », ben là, à un moment donné, t'es un peu dans le champ. Là. La raison pour laquelle je dis que je suis du bord des pro-choix par dépit, c'est parce que je ne veux pas que l'État intervienne dans la définition de c'est quoi une vie, puis que c'est mieux de laisser ça aux communautés locales, aux organisations médicales, de gérer la pratique de la chose, du cas par cas, au lieu de règles universelles, uniformes, par un bureaucrate. Puis après ça, tu vas me dire sur cette base-là que tout le monde qui a des nuances dans toute cette conversation-là, parce que tu remarqueras qu'il y a shit tonne de nuances qu'on vient de faire, que ben tout le monde qui a des positions de nuances différentes n'ont pas le droit d'être entendu. Come on, là, c'est rendu des serments de bonne foi politique. Là,
c'est sectaire. Oui, ça fait penser aux écrivains à l'époque des Lumières, là, qui, pour ne pas se faire dire qu'ils sont athées, il y avait le mot Dieu écrit partout tout le temps. Oui, mon Dieu, telle affaire, puis là, oui, le Seigneur a voulu que, puis là, t'es comme à la fin, tu te finis toujours par te faire mettre à l'index pareil. Mais c'est comme, comme dit Vincent, c'est faut que tu fasses profession de foi.
Oui, mais regarde, prends la position que j'ai dit. Là. On est dans notre pays utopique. On réinitialise les lois, c'est nous autres qui est fait. Puis moi, je dis, on remet ça entièrement dans les mains d'un médecin, la décision professionnelle de procéder oui ou non à un avortement, selon sa propre liberté de conscience à lui. Donc, il y en a qui vont le faire à 24 semaines, il y en a qui le feront pas après 10 semaines, puis il y en a qui le feront jamais. Puis il y en a qui vont peut-être être même plus olé-olé. Ils vont le faire dans d'autres circonstances un peu plus freak. Quelqu'un pro-vie pourrait me dire « T'es complètement débile avec ta proposition. Il y a des gens qui vont faire des avortements à 35 semaines. T'es un fou. Il faut t'enfermer. » Ça, c'est ce qu'un pro-vie pourrait me dire. Un pro-choix pourrait me dire « Ta position est complètement folle de permettre à des médecins de refuser de faire des avortements. T'es contre le choix des femmes. Mon corps, mon choix, t'es contre ça? » Ben là, t'as peu. Je viens d'exprimer la position à peu près dans ma tête qui est la plus libérale possible, de remettre la décision dans les mains d'un individu professionnel compétent en sciences de la santé. C'est difficile d'avoir une position plus libérale que ça.
Et la personne qui vient de te dire ça, Yann, toi, tu pourrais lui répondre, ben toi, tu veux nier la liberté de conscience du médecin. Exactement. Parce que lui aussi il a le droit à son cas de conscience. Tu sais, je veux dire, un professionnel de la santé qui juge qu'un acte... C'est l'analogie que je t'avais donnée, Yann, c'est... puis encore là, je sais que c'est pas un exemple parfait, puis on parle pas au niveau moral, c'est pas la même chose. Mais mettons, si tu vas voir quelqu'un qui fait de la chirurgie plastique, là, à un moment donné, ça se peut qu'il te dise « Monsieur ou madame, moi, je ferai pas ça. Si vous voulez vous faire faire telle affaire, vous irez voir quelqu'un d'autre. Moi, c'est pas vrai que je fais telle action. » Parce qu'il y a des gens qui se font complètement défigurer hein, par la chirurgie plastique. On en voit des exemples chaque jour là, dans les trucs de vedette. Là. Mais il y a des médecins qui font de la chirurgie plastique qui ont une certaine éthique personnelle ou des codes de conscience, puis ils vont refuser des clients.
On parce peut douter de l'éthique du gars qui a fait Dolly Parton, par exemple.
Ouais, ou les frères Bogdanov. Là. Tu dis... Puis moi, je comprends pas quel est le problème là-dedans. C'est ce que je disais, les gens ont leur liberté de conscience. Si un médecin refuse, après, la question c'est est-ce qu'il va essayer de convaincre ses collègues de refuser le service à l'autre personne? Ça, c'est une autre affaire. Parce que là, c'est vrai que tu viens jouer dans la liberté de la personne qui demande le service. Par contre, que le médecin. Puis à ce que je sache, au Québec, si on prend l'aide médicale à mourir, il y a des médecins qui refusent de faire ça. C'est dans leur droit de le faire.
Et puis, avec raison.
Ben écoute, sur le mon corps, mon choix, là, les gens aussi ont vraiment une incapacité à faire une segmentation des boîtes. Parce que sur le cas des vaccins, par exemple, il y avait un argument qui était quand même défendable, celui de l'externalité qui était posée par une personne non vaccinée. Tu avais une manière assez claire de répondre à la question dans ce cas-là. Right? C'est ça pour ça que ce qui me gosse un peu dans la comparaison, c'est qu'ici, dans le cas de l'avortement, il n'y en a pas de réponse claire. Je veux dire, je connais la littérature empirique sur le sujet, puis elle tire dans plusieurs directions, puis elle ne donne pas une réponse qui te permet d'être catégorique. Tandis que sur la question de l'externalité du vaccin, du bénéfice positif, l'externalité positive du vaccin, la littérature est empirique est quand même assez claire. On le sait quand est-ce que c'est bon. La question, c'est est-ce que on est clair qu'il y a une externalité positive d'un vaccin? C'est très, très clair. Et donc, il y a un avantage. Alors ça, la deuxième question, c'est est-ce que ça a vraiment besoin d'être par mandat que tu fais ça? Les cas des loteries qu'on a parlé dans le passé avaient l'air de montrer que c'était beaucoup plus facile de convaincre les gens de le faire en les payant pour le faire que l'alternative. Parce que les mandats créaient de la résistance, pouvaient créer plus de conflits, créaient plus de problèmes, donc pouvaient empirer le problème. Mais au final, on avait une manière très claire de répondre et d'arriver à peut-être pas à des réponses ultra catégoriques, mais à des réponses plus claires avec moins. Un range beaucoup plus petit, tandis que dans le cas ici, il n'y en a pas de réponse claire. Donc, je ne comprends toujours pas pourquoi il y a des gens qui se permettent d'être aussi catégoriques alors que
politique.
Il y a... Ben, je encore comprends une même fois, pourquoi c'est politique. C'est parce que On a quand même établi qu'il y a 40% des gens qui ont cette opinion.
Oui, mais je pense qu'on pourrait avoir la même opposition si, par exemple, on parlait de la peine de mort. Tu sais, tu as des gens qui vont être pour, tu as des gens qui vont être contre. Puis la réalité, c'est que si, mettons, tu en discutes avec des gens qui ne sont pas nécessairement politisés ou qui ont une certaine ouverture d'esprit, ben ils vont pouvoir te dire des trucs du genre, ben moi, je suis contre, mais mettons, Rocco Magnotta, tu sais, j'aurais pas pleuré. Là.
Ouais,
ou,
ben en fait,
tu comprends? Ils vont être dans une zone qui est toujours à quelque part entre les deux, entre le pour et le contre. Ils vont dire, ben ouais, ben c'est sûr, non, pas dans telle circonstance. Mais, et de trouver des gens qui vont être pour sans discernement et contre sans aucun discernement, en fait, il n'y a presque personne qui est dans ces catégories-là. C'est tout le monde est à quelque part dans une espèce de zone qui... est comme plus ou moins défini. C'est un peu ce que tu disais au début, du cas par cas, si on veut. Ben, dans ce contexte-là, je pense que
mais la grosse différence, par contre, avec la peine de mort, c'est que là, c'est ici, c'est que c'est l'État qui décide de tuer une personne au lieu que deux individus, un médecin et une mère, font un choix quant à une multitude de facteurs. C'est un petit peu plus complexe. Ici, tu as...
Non, je comprends que c'est plus complexe, mais je parle juste de
l'implication morale. Tu as un élément de volontariat dans celle-là. Dans celui de la peine de mort, tu as un élément de coercition qui est assez lourd. Donc, je pense que tu peux être un petit peu plus catégorique sur la peine de mort, mais comme tu dis, je pense que ça, c'est aussi un cas comme... Écoute, pour les trolls qui aiment ça écouter puis qui aiment juste écouter pour nous troller, soyons très clairs, je suis contre la peine de mort. Je déteste la chose. Mais en même temps, je comprends très bien pourquoi la société, de manière des fois exultatoire, voudrait pouvoir passer à la chaise électrique des gens comme Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy, des tueurs qui étaient absolument des êtres humains horrifiques. Je veux dire, ceux qui connaissent Ted Bundy ou John Wayne Gacy, c'était...
John Wayne Gacy, j'ai écouté, il y a un nouveau truc qui est sorti sur Netflix sur lui.
Ouais, c'est Confession Tape.
C'est un monstre, là.
Oh, oui, c'est vraiment... C'est un personnage, là.
C'est pour ça que je te disais, même... Mettons, tu prends la personne qui te dit, moi, c'est non, peu importe le contexte, tu lui fais regarder ça, puis tu as la discussion après. Je ne sais pas si la position a changé. C'est pour ça que je te dis que les questions touchées comme ça qui vont vraiment dans les valeurs profondes des gens, leur perception de la réalité, yep. quand il y a rien qui est impliqué émotivement, on peut avoir une position. Puis là, aussitôt que tu commences à rentrer dans le détail, dans les implications que ça peut avoir sur eux, c'est des vieux dilemmes moraux que tu peux avoir en philo.
Mais en même temps...
C'est des vieux dilemmes moraux que tu as en classique, en philo. Mettons, tu dis à quelqu'un, est-ce que deux vies valent la même chose? Là, les gens vont dire, ben oui. Là, tu dis, ben c'est la fameuse histoire du train. OK, il y a un train qui avance. Tu as une manière de le faire dévier pour changer de voie. Sur une des voies, puis tu peux juste sauver. Il y a deux personnes sur chacune des voies. Tu peux juste sauver une des deux personnes. Tu me dis que deux vies valaient la même chose, OK, oui. Sur une des deux personnes, il y a un inconnu. Sur l'autre, il y a ton frère ou ta sœur. Qu'est-ce que tu fais? Ben, la majorité des gens vont choisir leur frère ou leur sœur de le laisser vivre. Mais sur le principe...
de faire passer le train.
De faire passer le train. Mais ça reste que la majorité des gens, quand même, vont rester d'accord avec le principe général. Mais comme ils sont impliqués personnellement, le choix va dévier du principe général parce qu'ils sont impliqués dans la prise de décision. Moi, je pense que c'est la même affaire.
Tu peux faire la même affaire même si tu ne les connais pas. Tu as un enfant de 10 ans, tu as une personne de 80 ans. Est-ce que tu fais un flip coin?
Ouais, la plupart des gens te diraient « je garde l'enfant ».
La plupart des gens vont te dire « Christy, que je suis content de ne pas avoir à décider ça ».
Exact. Mais...
Oui, effectivement. En fait, la personne, le vrai trou de cul, j'ai jamais compris dans ce qu'on appelle les trolley problems. Là. J'ai jamais compris pourquoi il n'y a personne qui dit c'est qui le trou de cul qui décide que tu as à faire cette décision-là? c'est qui le douchebag qui a décidé qu'il fallait que tu te prononces là-dessus?
C'est le réalisateur du film de Steven Seagal.
Je m'excuse, là, mais non. Mais une des affaires, par contre, sur ces questions morales-là qui sont difficiles, c'est là que le rôle que les solutions ne viendront jamais directement. C'est le genre de situation dans lequel les solutions vont être nettement indirectes. Donc, exemple numéro un. Prenons la question de l'avortement, mais imaginons-le à travers le temps, puis on part de, disons, 1900. En 1900, quand ta seule méthode de contraception est largement celle du calendrier, right, que tu fais du timing, puis that's it, puis tu espères que tes cycles sont très clairement réguliers, c'est, je veux dire, le nombre d'avortements que tu vas avoir ou de situations qui mènent à un choix problématique sont très élevés. Fast forward à 1960, avec l'introduction de la pilule contraceptive, ton problème est largement, en grande partie, c'est réglé parce que maintenant, tu as donné contrôle du cycle reproductif à la personne qui va le porter. Après ça, fast forward, disons, à 2000, maintenant, tu as...
J'oublie le nom que ça a, mais... Site, c'est Bridgerton. Ça remonte vraiment à plusieurs années et tout ça. Puis il y a des anachronismes, là, justement. Il y a des Noirs qui font partie de la noblesse, par exemple, des choses comme ça. Fait que ça peut être quand même assez intéressant juste de voir ça. Mais un des quarts d'épisodes, j'ai écouté avec elle juste pour lui faire plaisir. Puis après ça, j'ai décroché. Puis j'ai dit, j'embarque pas d'une série de même. C'était une fille qui était enceinte puis qui devait rapidement trouver un mari un peu naïf qui se ferait avoir. Là, parce que... À un moment donné, ça allait commencer à paraître qu'elle était enceinte. Tu vois le genre d'enjeu qui appartenait à une époque qui aujourd'hui n'est plus un problème.
Mais il y a une joke dans les livres d'histoire que les grossesses étaient généralement entre 7 et 9 mois.
On sait pourquoi.
Je vais juste dire ça de même. C'est une joke qui est fréquemment faite pour faire référence au fait que tu avais des gens qui, sachant qu'ils étaient enceintes, décidaient de se marier pour éviter la stigmate sociale qui venait avec ça. Mais l'émergence de la contraception, excusez-moi, l'émergence des méthodes contraceptives ont eu pour effet de réduire le nombre d'instances dans lesquelles ça s'est produit. Tu as aussi maintenant, ça s'applique particulièrement chez les gens qui sont atteints de maladies mentales puis qui ont beaucoup plus de difficultés à gérer leur horaire au quotidien. Les injections de contraceptifs qui durent, j'oublie le nom que ça a exactement, mais ça peut durer 3, 4, 5 ans. Eux autres, les parents souvent vont les demander, justement parce que comme ils ont de la difficulté à gérer la prise de médicaments, un médicament comme ça règle la chose. Mais là, maintenant, tu sais, t'ajoutes du pouvoir dans ce cas-ci, dans les mains de la personne pour contrôler la reproduction, ajoute d'autres méthodes contraceptives ou ajoute des sociétés qui sont tellement riches que le coût d'un enfant n'est pas aussi élevé ou que tu as des sociétés dans lesquelles tu as un tissu familial plus élevé de telle sorte que s'il y a un imprévu, c'est plus facile à gérer. Donc, tu as la présence des parents, donc moins de familles monoparentales, moins de mères monoparentales maintenant, des enfants des mères monoparentales vont avoir plus de réseaux de support. Si eux, il leur arrive quelque chose, la famille étendue est plus large, tu multiplies des méthodes de solution. Mais remarque que dans ce que je dis, la manière de régler le problème n'a aucun lien avec les définitions légales qu'on importe dans la conversation. C'est que des solutions indirectes qui sont soit l'accident d'innovation technologique, d'enrichissement, structure démographique. C'est pour ça que la ligne de Bill Clinton dans les années 90 était vraiment bonne. Safe, legal and rare. Puis c'est ça que ça devrait être. C'est-à-dire que tu devrais essayer, tu sais, rends-le légal, crée un environnement dans lequel les gens peuvent au moins, disons, poursuivre pour des procédures bâclées ou mal faites. Mais en même temps, tu voudrais vouloir minimiser le nombre, pas par des méthodes légales.
Ce qui est exactement la position de Hippon. Hein?
Oui, qui s'est fait crucifier pour ça. Puis je ne comprends pas parce que Roy a été très clair. Roy a été tellement clair que c'est pas parce qu'il croyait ça qu'il devait légiférer. Honnêtement, j'ai trouvé que là-dessus, là, les médias, peut-être c'est parce qu'ils n'ont jamais rencontré cette nuance-là. Ce qui est une possibilité.
Ce qui est probablement le cas, effectivement, parce que c'est une question au Québec, dans notre immaturité politique, que, puis tu sais, on l'avait eu la discussion du temps du réseau Liberté Québec, justement, avec Roy et tout, puis avec Joanne aussi, qui était très, très, très catégorique dans ces affaires-là, c'est c'est un bâton plein de marde. On n'ose même pas y toucher. On n'en parle même pas. Ça n'existe pas, ce débat-là. On ne veut rien savoir de ce débat-là. Tu prends le débat, tu le sac au vidange. On ne veut pas le débat parce que ça ne vaut pas la peine. On n'a rien à gagner à le faire. Elle avait absolument raison quand elle disait ça.
Mais tu sais.
Mais c'est une preuve quand même d'immaturité politique parce que, non pas de la part du RLQ, mais plus du Québec d'une certaine façon. Parce que normalement, une société mature est capable de débattre de ces choses-là, est capable de ramener. Un peu comme les Américains font. Les Américains ont. Oui, il y a les freaks là, qu'on voit à la télé puis qui sont les militants. Mais en ayant ce débat-là constamment dans l'actualité, ben ils sont justement capables d'en débattre dans un souper. Nous, ici, on est dans un safe space, le trio économique, les gens qui suivent le trio économique.
Ah, j'haïs tellement ce mot-là.
Je sais. C'est pour ça que je le prends.
On peut l'utiliser pour un peu troller les gens qui parlent de ça.
Exactement, mais tu sais, moi, je sais que c'est une conversation que je peux avoir avec vous deux. C'est une conversation qui va être intéressante avec vous deux.
Mais c'est surtout qu'aucun de nous trois veut se présenter en politique.
Exactement, parce que moi, j'ai pas le goût de thé, je veux dire.
On s'entend qu'il n'y a aucune des positions. Il n'y a aucun truc qu'on a dit aujourd'hui qui est quelque chose de radical, de non-nuance. Tu sais, je veux dire, on a amené plein d'exemples. Puis, je trouve que ce sujet-là, comme celui de la drogue, comme celui. En fait, tous les exemples qu'on a donnés, la peine de mort, etc.
Ou l'immigration la semaine passée.
Ou l'immigration la semaine passée. Ça nous ramène à un terme qui est assez récurrent dans le podcast, c'est la surpolitisation du réel. Je comprends que c'est politique de facto vu que ça implique de la législation, mais techniquement, en fait, on a affaire ici, un peu comme dans le cas de l'aide médicale à mourir, à une question médicale. Je comprends que ça implique des choix personnels et individuels, mais c'est quand même quelque chose de médical. Or, on sait que le débat, il est, comment on pourrait dire ça, il est monopolisé ou il est hijacké par la dimension politique de la chose, ce qui fait que on sait très bien, puis ça a même été dit par un ancien député du Bloc québécois que j'ai entendu aujourd'hui, j'oublie son nom, mais elle disait « Ne faites pas l'erreur de croire qu'il y en a juste chez les conservateurs. Il y en a chez les libéraux, il y en a chez le NPD. Il y en a, savez-vous pourquoi? Parce que du moment où des gens se présentent, puis ils sont issus, par exemple, de l'immigration, puis ils viennent de certains endroits où, bon, la foi est plus présente que chez nous, ils peuvent, de manière beaucoup plus prononcée, avoir individuellement ce genre de croyances-là. Et puis, c'est important de respecter à quelque part ça. Et l'idée, c'est qu'on le comprend, c'est que probablement qu'on viendra jamais questionner des gens. Tu sais, Roy Epen, il se présente pour Québec solidaire ou pour le Parti québécois et jamais on y parle de ça. Jamais on ne lui parle de ça. La réalité, c'est qu'on a utilisé ce truc-là parce que c'était un prétexte utile pour casser du sucre sur l'étiquette conservateur.
En fait, amène
c'est juste ça l'histoire.
Là. Amène tous les députés du Parlement demain matin devant un détecteur de mensonges. Là. Vraiment, là, on le fait comme du monde. Puis on leur pose les questions. On ferait le saut. On ferait le saut. Puis si on va dans la direction que Mme Anglade veut, là, de dire si tu penses que le droit à l'avortement devrait être plus limité qu'il l'est actuellement, tu ne peux pas te présenter aux élections. Il n'est pas juste le PCQ qui perdrait un candidat, là.
Ben, c'est en
fait. Beaucoup de partis politiques qui perdraient des candidats, puis la représentation des Blancs à l'Assemblée nationale sera en hausse. On pourrait dire comme ça aussi.
Ben, tu sais, c'est. Moi, en fait, ça, on en a déjà parlé, là. Je ne sais pas c'est quoi qui se passe avec l'étiquette libérale, là. Mais à quelque part, le libéralisme aussi, c'est de respecter, comme je le disais, la liberté et les choix de conscience que les gens font. Bien moi, oui. Je ne peux pas concevoir que tu aies l'étiquette libérale et que tu vas aller passer avec une lumière dans le front comme un interrogatoire à tous tes candidats et leur dire « OK, voici la liste des sujets. J'espère que je vais faire un crochet à côté de tous les sujets que j'ai parce que sinon, la porte est là et tu sacs ton camp. » Mais c'est quoi cette
Je vais revenir du temps du réseau Liberté Québec parce que Roy était dans les 6 qui étaient à la tête du réseau, avec Joanne, avec moi, avec Éric Duhaime, avec Guillaume Simard-Leduc, qui est présentement directeur des communications pour François Legault.
Ouch!
Premièrement, Guillaume, il n'y avait aucun problème avec Roy à l'époque. Ça, c'est à noter. Et Roy n'a jamais fait de pression pour qu'on parle de l'avortement dans aucun des colloques. Il n'a jamais voulu ça, parce que lui, il a toujours eu la même position. C'était que c'était un choix personnel ou un une idée qui lui appartenait individuellement, cette affaire-là. Il considérait pas que c'était un débat, lui non plus, que ça valait la peine d'aller au Québec.
C'est-tu juste une chose sur Roy, pour les gens qui le savent pas, là, puis tous les gens dans les médias qui aiment ça prétendent qu'il est juste vraiment weird, puis qu'il est une... Je vais t'ajouter une couche de plus weird. Roy, il est gay, mais genre méga duper méga gay. Genre très gay.
Fait que, il est monarchiste aussi.
Il est monarchiste aussi.
Ça veut dire être monarchiste au Québec, là, puis ça, vous allez sur son Facebook de Roy, vous allez le voir tout de suite. Là.
Il y a une photo de lui puis la reine.
Il aime la reine, pour vrai. Là. La famille royale, c'est quelque chose qu'il apprécie énormément.
Écoute, il y a bien des motifs pour le canceller, ce gars-là.
Non, mais juste pour souligner, voici là, un gars qui est conservateur,
oui.
Qui est homosexuel, qui est, oui, pro-vie moralement, mais pro-choix légalement.
Exact.
Qui croit que tu devrais avoir plus de choix dans tes soins de santé, de comment tu les obtiens. Tu vois-tu là, qu'il y a un thème général, un chez le gars, que c'est une personne beaucoup plus nuancée que ce que tu essaies de faire paraître qu'il est. Parce que tu ne peux pas avoir toutes des positions comme ça. Là. Toutes les positions
avant de le crucifier, y a-tu quelqu'un qui pourrait demander son avis?
Tu peux pas être toutes ces choses-là, là, puis être vraiment monochrome.
Non.
Mets toutes ces choses-là ensemble, tu dois être une personnalité assez complexe, assez riche, ce qui est le cas pour Roy. Roy est une personnalité très, très riche et complexe. Puis je dis riche en termes de facettes et de complexité, de dimension. Et après ça, par contre, la grande cohérence qui est au travers de Roy, c'est l'espèce de libéralisme qui l'habite, qui est que laisse aux gens le plus de choix possible, laisse la moralité aux individus. Et les seuls cas dans lesquels l'État devrait intervenir, c'est des cas très clairs où, là, moi, je commets violence à une autre personne contre son gré, donc police, cour, armée.
Quand on dit que Roy est complexe, c'est un conservateur un peu plus social, très libertarien.
Ce qui est tout à fait possible. Les gens ne comprennent pas que tu peux être vraiment libertarien, mais avoir des positions morales, ouais, très conservatrices. Ce qui est
Le problème, c'est qu'on vient de faire sauter les comment je pourrais dire ça? Voici le cadre de la pensée binaire. Nous avons la droite et nous avons la gauche. Et sur tous les sujets, tout le monde qui est là devrait penser ça. Tout le monde qui est ici devrait penser ça. Et là, tout d'un coup, arrive cet électron libre. Et sur certaines questions, on pourra dire « Ah, il est peut-être à gauche. » Sur d'autres, on va dire « Il est peut-être à droite. » Et là, ça mindfuck tout le monde parce que les gens ont besoin, quand je dis les gens, je ne vais pas le répéter 450 fois, des gens, là. Il y a des gens qui sont incapables de comprendre la complexité de la réalité. T'es comme ça, on va te mettre dans cette boîte-là. T'es comme ça, on va te mettre dans cette autre boîte-là. Puis là, vu que tu rentres pas dedans, ben on n'est plus capable d'expliquer t'es qui, fait qu'on va te canceller. Grosso modo, c'est ça. Là. Parce que là, c'est comme trop complexe. Là. Ouais, mais lui, ce gars-là, bon, OK, non, OK, il est pro-vie, là, fait garde votant. Mais attendez, là, une seconde. Là, les gens, ils...
Et puis, interdire à quelqu'un le droit de se présenter, là, aux élections. C'est énorme là, comme affirmation.
Il y a des gens qui ont des scandales. Il y a des gens qui ont sur le dos et dans leur placard des histoires d'agression sexuelle, de conduite avec facultés affaiblies. T'sais, on a des maires au Québec qui sont fait pogner 3-4 fois pour conduite avec facultés affaiblies. René Lévesque a déjà frappé un clochard en char alors qu'il était premier ministre. Je veux dire, il y a des gens qui ont...
J'allais clarifier, je pensais que tu allais dire pendant qu'il était sous. On ne le sait pas. Il y a eu beaucoup d'affaires sur l'affaire Edgar Trottier qu'on ne sait pas à propos de René Lévesque.
Mais quand même, je veux dire, mon point, c'est juste qu'il y a beaucoup de politiciens qui ont à leur actif. Tu sais, je veux dire, Jean Charest, personne ne dit qu'il n'a pas le droit de se présenter à nouveau en politique. Il était à course pour être chef des conservateurs. Est-ce qu'il y a eu des affaires sur le dos? Je veux dire, sa vice-première ministre est partie avec des menottes le matin avec l'UPAC. On s'en fout, là, savoir si tu es vrai, si tu es pas vrai, qu'est-ce qu'ils ont, y avait-tu des preuves ou pas. Mon point, c'est que si ces gens-là ont le droit d'être en politique, je vois pas pourquoi quelqu'un dont le seul crime est une idée devrait être exclu. Je suis désolé, là, ça marche pas, là, cette affaire-là.
C'est-tu le pire?
De manière catégorique, on pourrait dire que quelqu'un qui a conduit en état de faculté affaiblie est moralement plus objectionnable que quelqu'un qui dit qu'il y a une position pro-vie. Je m'excuse, là, mais
fait.
Mais mettons ça de côté, là.
Puis le gars qui a conduit en faculté affaiblie, je veux même pas qu'il lui retire le droit de se présenter à une élection.
Non, non, je suis d'accord avec toi. Là, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais je pense qu'on devrait faire un ranking.
Oui, c'est un plus gros salaud. Définitivement.
Mais ce que je pense que la chose, là, puis ça peut closer la partie non-Patreon pour les gens. Là, ce qu'on
non, on va quand même dire devant tout le monde ce qu'on voulait dire au début du podcast, il y a maintenant 55 minutes. Là.
Non, mais on a juste été hors sujet, là. Non, toujours, à cause de Yann.
Non, mais c'est pas grave, c'est la liberté de conscience.
Non, mais t'as eu quand même une reconnaissance très importante, Vincent, cette semaine.
Non, mais je veux juste faire le point. T'es même pas capable de me laisser finir le... Calice, Yann.
OK, non, vas-y, Vincent, puis on va closer avec podcast.
Mais moi, c'est vraiment la chose, les dernières semaines, avec les réactions qu'il y a, tant aux États-Unis qu'au Québec, c'est à quel point il y a un divorce complet dans les médias sur la complexité de plusieurs sujets discutés. Ah. Puis ce qu'on s'attend, c'est... Voici, là, en fait, la meilleure analogie, c'est... Tu sais, nos enfants... En fait, moi, Frank, moi puis Yann, on a des enfants. Fait qu'on, tu sais, on a les trucs avec les jouets où est-ce que tu rentres, les carrés dans les carrés, les cercles dans les cercles. Ah. Puis j'ai l'impression que ces gens-là, là, ce qui les gosse, c'est qu'il faut que ça soit un carré dans un carré, puis that's it. Mais s'il y a une forme un petit peu plus complexe, plus difficile à comprendre, disons une étoile ou quelque chose qui nécessite vraiment... Tu peux pas juste... Le carré, tu peux le twister des quatre manières différentes.
Un dodécagone.
Ouais. Ben, un dodécagone, en fait, peu importe comment tu le mets, il va pouvoir rentrer. Mais genre, une étoile, il faut vraiment que tu choisisses ton angle particulier pour que ça rentre dans le trou. Ben, ces gens-là, ce qui se passe, c'est qu'ils sont... Dès qu'ils ont une forme plus complexe, ils ne sont même pas capables de reconnaître un pattern dans lequel ça s'insère dans quelque chose d'autre. Si tu dis que la petite étoile que tu mets dans le trou de l'étoile, c'est ben voici le discours qu'il fait, puis le trou de l'étoile, c'est le discours du libéralisme. Le dodécagone, c'est le discours du conservatisme. Je suis capable de le mettre là-dedans, puis je suis capable de. Ils sont, dès que ce n'est pas les formes les plus simples, un cercle, un petit carré, un petit triangle, puis un petit triangle équilatéral, la conversation implose, puis ça en est vraiment dérangeant puis déplaisant en termes de comment ça se dit, mais après ça, de tout voir ces gens-là ça se péter les bretelles, se prétendre comme des gens vertueux et nobles, alors que la complaisance intellectuelle qu'ils ont et la superficialité qu'ils ont dans les idées, ça en est frustrant, là.
C'est carrément ça. Fait qu'on peut peut-être finir la partie non-Patreon avec justement la reconnaissance que tu as eue, là, Vincent, cette semaine. C'était pour quel article exactement?
Ah, ben écoute, comme tu as fait dans le crawl pour le live du mercredi, ce podcast sert exclusivement à promouvoir ma recherche.
Exact.
J'ai un article qui a été publié.
Hey, excuse-moi d'avoir l'air complètement insignifiant, mais c'est quoi tu veux dire le crawl? Je comprends pas.
Le truc de Star Wars que Frank a mis dans
le crawl. Ah, c'est ça que t'appelles le crawl. Okay,
le crawl, c'est le truc de Star Wars qui est dans l'angle un petit peu. Ça, c'est un crawl.
Je savais pas.
Ben, tu vois, tu vas te coucher moins cave. Non, c'est sûr qu'on part de loin. On part de loin dans ton cas.
Hey, Popé, pareil, un prof d'économie avec un PhD, il faut vraiment attendre une heure avant qu'il réussisse à m'apprendre de quoi dans un podcast, Popé, quand même. Je suis pas si imbécile que ça.
Ben, écoute, c'est peut-être juste que t'as pas le meilleur prof. Écoute, on est clairement juste des déplorables, nous autres, hein, parce que dès que tu n'es pas dans le bon discours, t'es un MAGA hat country, puis
on est tous des Trumpistes. Comment disait ça, Frank René Drolet sur Twitter? Hein,
on est tous des Trumpistes ici.
Non, c'est quoi qu'elle a dit? C'est que...
Ah ouais, t'as un peu fou, je ressorte ça.
Non, mais écoute, on est tous des Trumpistes.
J'ai trollé, évidemment, cette semaine. J'ai tweeté « Mon corps, mon choix, pour tout ». Right, point d'interrogation. Après l'épisode des vaccins, puis de, on va congédier les infirmières.
C'est que t'es de mauvaise foi.
Moi?
Oui.
Oui.
Alors, écoute, je suis bien d'accord. Oui.